Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, merci de votre fidélité hebdomadaire, c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Bonjour Olivier Lecour Grand Maison.
Bonjour.
Merci d'être venu au rendez-vous de cette émission. Vous présentez Olivier Lecour Grand Maison, vous êtes politologue, spécialiste des questions coloniales. On vous doit de nombreux ouvrages sur ce sujet, notamment « Coloniser, exterminer sur la guerre et l'état colonial » qui est paru aux éditions Fayard, « La République impériale », paru chez le même éditeur le 17 octobre 61, un livre important ici à Beurre FM, vous vous en doutez, les autres l'étaient aussi, qui était paru aussi aux éditions Fayard. Et le tout dernier paru en cette rentrée, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, qui vient de paraître aux éditions La Découverte, et c'est le propos de notre Voix au chapitre ce dimanche. Alors vous présentez, voilà qui est fait, et voilà qui va être au cours de ce rendez-vous, au cours de cette émission, c'est de nous parler de ce livre, qui est donc cet éclairage, qui est la manière qui était de représenter la place de la religion musulmane par les élites académiques, scientifiques, littéraires et politiques, c'est ce que nous dit la présentation de votre livre, mais de manière plus concrète, tout ce travail minutieux et complet que vous menez au travers cette représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Ennemi mortel, c'est un titre qui est entre guillemets, on reviendra sur cette manière de le dire entre guillemets, il y a une particularité sans doute, mais en tout cas nous rappeler que dire que vous n'êtes pas un spécialiste de l'islam, c'est donc vraiment une analyse, une étude de cette représentation dans cette fin du 19e siècle pour comprendre de cette fin du 19e siècle à aujourd'hui, ce qu'il en a été de cette représentation musulmane d'hier à aujourd'hui, donc aujourd'hui dans la société française, avec ce que ça a de représentation, voire de stigmatisation de la communauté musulmane. Vous nous l'expliquerez dans une première partie de la rencontre, et ensuite on essaiera de comprendre aussi justement le aujourd'hui, le présent, qu'est-ce qui fait qu'on stigmatise l'islam, vous nous en parlerez sans doute, et qu'est-ce qui a fait que cette représentation d'hier est encore ancrée profondément dans notre société. Quand je rappelais dans la présentation qui est faite de votre livre que ces représentations de l'islam étaient des représentations académiques, scientifiques, comment vous avez travaillé, Olivier Lecour Grand Maison, pour nous donner à lire et à comprendre dans cet éclairage toutes ces questions qui étaient cette représentation de l'islam.
Tout d'abord, préciser en effet, parce que c'est très important, que ce n'est pas un livre sur l'islam. Je ne suis pas un spécialiste de la religion musulmane. C'est un livre sur les représentations de l'islam et plus spécifiquement sur les représentations, ce que j'appelle les représentations élitaires, savantes plutôt, telles qu'elles ont été forgées par un certain nombre de spécialistes de la religion musulmane à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et également par un certain nombre de spécialistes des colonies. L'un d'entre eux a joué un rôle fondamental, il est professeur au Collège de France, il s'appelle Ernest Renan.
Oui.
Il jouit d'une légitimité académique très importante puisqu'il est professeur dans cette institution extrêmement prestigieuse. Il jouit par ailleurs d'une légitimité littéraire également significative puisqu'il est élu à l'Académie française. Il est considéré de son vivant comme un très grand écrivain. À cela s'ajoute une légitimité politique significative aussi puisque Renan est l'auteur de deux textes dont l'un est encore aujourd'hui une référence pour un certain nombre de républicains. Ce texte, c'est « Qu'est-ce qu'une nation ?» puisque ce texte est considéré comme l'un des textes fondamentaux dans lequel s'exprime une conception républicaine et contemporaine de la nation. Et par ailleurs, Renan est aussi l'auteur d'un texte moins connu, mais très important pour les contemporains, qui s'appelle « De la réforme intellectuelle et morale ». Texte qui fait de Renan l'un des pères fondateurs de la Troisième République, qui a l'oreille d'un certain nombre de dirigeants de la Troisième République, et notamment Jules Ferry, qui va beaucoup s'inspirer d'un certain nombre de ces conceptions coloniales, Renan étant à l'origine de cette formule, je cite l'esprit à défaut de respecter complètement la lettre, une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme, sachant qu'il écrit cela très peu de temps après l'écrasement de la Commune de Paris, et donc pour les contemporains, cet événement de la Commune de Paris n'est pas un passé passé, mais un passé tout à fait présent et qui les hante.
Alors, justement, sur cette figure importante, intellectuelle, qui était Ernest Renan, on trouve d'autres figures dans cette période qui vont évoquer la question de l'islam dans cette période.
Alors, ce qui est tout à fait surprenant, et c'est évidemment lié aux positions à la fois académiques, politiques et institutionnelles de Renan, Renan a eu une influence extrêmement importante sur un nombre significatif de sciences sociales, de sciences humaines, des rétentes aujourd'hui. En droit, en sociologie coloniale, en psychologie ethnique, comme on le dit à l'époque. Et on peut suivre ainsi la diffusion de la pensée de Renan.
De cette pensée qui va continuer de...
Qui va se diffuser horizontalement et affecter par là même toute une série de sciences humaines, qui va affecter également ce qu'on appelle à l'époque la littérature coloniale, puisqu'on trouve des romans dans lesquels Renan est explicitement cité, avec parfois des citations même très longues. Et enfin, Renan va affecter également ce qu'il est convenu d'appeler toute une série d'ouvrages dont l'objectif est de vulgariser les conceptions de Renan. Alors, un de ses ouvrages très importants, qui est le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, qui est une aventure à la fois éditoriale et intellectuelle très importante, initiée par Pierre Larousse. L'ambition de Pierre Larousse, faut-il le rappeler, est de fournir aux élites et aux lectorats éclairés de la fin du XIXe et du début du XXe siècle l'équivalent de l'encyclopédie d'Alembert du XVIIIe, au motif que, évidemment, toute une série d'articles présents dans l'encyclopédie, notamment des articles qui portent sur les sciences et sur ce qui va devenir plus tard les sciences humaines, sont évidemment dépassés par l'extraordinaire progrès des sciences en général et des sciences humaines en particulier, d'où l'objectif de ce très grand dictionnaire. Et par ailleurs, on trouve l'essentiel des thèses de Renan dans un certain nombre d'ouvrages recommandés par le ministère de l'Instruction publique à destination des écoliers de la Troisième République.
Et concrètement, comment elle se verbalise, cette pensée de Renan, et comment elle se popularise, si je puis dire ainsi?
Pour aller à l'essentiel, ce qui est popularisé dans la pensée de Renan, c'est au fond un certain nombre de caractéristiques imputées à l'islam et aux musulmans. L'islam étant pensé par Renan et beaucoup de ses successeurs comme étant une religion vouée par essence à la guerre, religion donc conquérante. La conséquence pour les musulmans, c'est qu'ils sont souvent caractérisés de fanatiques, déjà. Une religion par ailleurs réputée hostile au progrès des sciences et des techniques, au libre usage de la raison, et donc réfractaire à la civilisation et à tout progrès. Et par ailleurs, une religion qui, relativement aux musulmans, bien sûr, est réputée favoriser la paresse et rendre les musulmans incapables de cultiver véritablement les terres et d'exploiter véritablement les territoires sur lesquels ils vivent. Ça peut paraître anodin, la conséquence en matière de colonisation va être extrêmement importante puisque c'est très exactement cette caractéristique-là qui va justifier, notamment en Algérie, mais pas uniquement, la spoliation des terres, bien sûr, au motif que seuls les Européens et les Français, plus spécifiquement, sont capables, pour reprendre les thèses de la Troisième République, de mettre en valeur les territoires qu'ils ont conquis.
Et cette thèse de Ernest Renan, c'est de la haine en général?
Alors, c'est
de l'indifférence? Du mépris? Comment on peut qualifier cette pensée qui est...
Alors, il y a évidemment du mépris, puisque évidemment Renan est absolument convaincu que la religion musulmane, la civilisation musulmane sont inférieures à la religion et à la civilisation chrétienne. Mais en même temps, rappeler que c'est ça qui est parfois difficile à admettre, c'est que lorsque Renan écrit, lorsque Renan fait des conférences, il est convaincu d'exprimer la science, d'être au fond la science. Et lorsque ses contemporains le lisent ou l'écoutent, ils sont également convaincus d'être en présence de la science. C'est très important de le comprendre cela parce que ça permet également de comprendre l'extraordinaire diffusion de Renan à la fin du 19e et pendant toute la première moitié du 20e siècle.
Alors voilà pour une figure reconnue de Renan de l'époque, Ernest Renan. Il y avait d'autres figures qui portaient cette même voie. On parlera dans un deuxième temps des opposants à cette pensée à l'époque, mais y avait-il d'autres figures?
Globalement, l'essentiel du personnel politique, administratif et une partie des élites de la Troisième République
accepte
cette thèse. Alors, avec des nuances, ça ne veut pas dire que la pensée de Renan n'est pas critiquée. Elle l'est parfois, mais les critiques sont restées marginales. Et globalement, effectivement, ce sont les thèses de Renan qui vont en matière de représentation, mais aussi plus généralement en matière de politique musulmane, ce qu'il est convenu d'appeler les politiques musulmanes, et qui vont donner le « là », pour le dire en ces termes.
Alors, dans ce travail qui est votre livre, Olivier Lecourt Grand Maison, « Ennemi mortel », représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Nous évoquons donc Ernest Renan. Vous êtes parti des sources archives, des textes d'Ernest Renan, et vous avez eu d'autres accès à quelles autres sources vous avez eu accès pour
Alors, principalement le corpus, comme on le dit, c'est-à-dire le nombre de volumes écrits dans différentes disciplines relativement à l'islam à la fin du 19e et au début du 20e siècle est extrêmement important. Je le précise d'ailleurs dans la préface, il faudrait être plusieurs pour en défricher la totalité, sachant que des textes sur l'islam, on en trouve à la fois dans des disciplines comme l'histoire, bien sûr, la géographie, la psychologie ethnique, le droit. Et pour donner un exemple précis, dans le Code de l'indigénat, dont la première version algérienne est de 1875, il y a des articles qui sont, au fond, la traduction juridique de cette peur de l'islam et de cette crainte du musulman fanatique qu'il faut par conséquent soumettre à des dispositifs politiques d'exception.
Parce que le musulman, pour ce regard-là, qui s'oppose au musulman, qui ne l'accepte pas, c'est un regard qui est posé parce que le musulman, quand il se révolte, quand il réagit, il fait peur.
Le musulman fait peur pour plusieurs raisons. Alors, il y a une raison.
Parce qu'il y a eu une résistance des musulmans de ce regard qui leur était
absolument.
Alors, porté.
Une raison qui est essentielle, qui est une lecture très particulière du Coran, l'idée étant que l'islam, par opposition à la religion chrétienne, serait cet islam une religion de guerre. Et une fois que cette prémisse est admise et que les musulmans sont pensés comme fanatiques, toute résistance à la colonisation française va être pensée comme la preuve historique et empirique qu'effectivement, ils sont bien fanatiques puisqu'ils s'opposent par la violence à la colonisation française.
On ne dit jamais qu'ils sont résistants. En fait, ceux-là ne disent jamais qu'ils sont résistants.
Alors, ils ne sont jamais pensés comme des résistants. Ouais. Ils sont pensés, comme on le dira plus tard pendant la guerre d'Algérie, comme des terroristes, précédemment comme des insurgés. Et dans tous les cas, ces musulmans pensés comme faisant peser, au fond, une menace qu'on peut qualifier d'existentielle pour la stabilité de l'ordre colonial. Et plus tard, après la Première Guerre mondiale, lorsque va se développer une très importante immigration nord-africaine pour des raisons démographiques aggravées par les destructions de la guerre et de cette Première
et
Guerre mondiale.
Et qu'on va faire venir en France.
Cette immigration nord-africaine va être effectivement très présente en métropole et cette menace va au fond se déplacer. Elle va devenir d'une certaine façon plus importante encore puisque désormais les Nord-Africains ne sont pas seulement en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ils sont désormais en métropole et on voit se développer toute une série de représentations là sur le Nord-Africain, entre guillemets, comme étant cette menace qui fait peser une très grande insécurité pour les biens et les personnes et en particulier pour les femmes en métropole. Il y a un célèbre à l'époque fait divers qui va être la source d'une réforme politique et juridique très importante parce que ça va devenir en fait un fait politique très significatif.
Je rappelle que je reçois ce dimanche Olivier Lecourt Grand Maison et nous parlons de son ouvrage qui vient de paraître, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Ce livre est paru aux éditions La Découverte. En introduction, je rappelais que votre titre est en rouge, Ennemi mortel et entre guillemets. Alors un mot peut-être sur la précision de se dire que c'est un titre emprunté, déjà écrit, comment est né cette signification?
Alors effectivement, c'est un titre emprunté et c'est évidemment pour ça qu'il y a des guillemets. C'est aussi pour marquer une distance par rapport à ce qui est à ce titre qui peut paraître très violent. Il est effectivement le paradoxe, c'est que cette expression ennemi mortel est empruntée à un spécialiste de l'islam qui lui est un critique très important d'Ernest Renan, aujourd'hui globalement méconnu, mais qui au fond critique ce qui est appelé par un certain nombre de contemporains, on y reviendra sans doute, l'islamophobie savante et l'islamophobie faite politique, considérant que à stigmatiser ainsi les musulmans dans les colonies françaises, à leur imposer des dispositions d'exception, à par exemple restreindre quasiment systématiquement la possibilité qu'ils ont d'aller à la Mecque, à restreindre leur liberté de déplacement à l'intérieur de la colonie et à l'extérieur pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Grand est le risque, estime celui-là, qu'effectivement, la politique française finisse par faire des musulmans des ennemis mortels et des ennemis mortels de la France. Et donc lui plaide pour une autre politique, non pas parce qu'il serait opposé fondamentalement à la colonisation, mais justement parce qu'il estime que grâce à une autre politique, la France ne fera pas des musulmans des ennemis mortels, mais pourra faire au contraire, pourra en faire des alliés.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes bien sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois ce dimanche Olivier Lecourt Grandmaison et nous parlons de ce livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Dans une première partie de notre rencontre, nous avons échangé autour de ce travail précieux que vous avez mené autour de cette question de représentation de l'islam, Olivier Lecourt Grandmaison, en évoquant une figure importante qui a une représentation très singulière des musulmans, qui est Ernest Renan. Et je vous interpellais sur celles ou ceux qui ont réagi à cette interprétation, à cette représentation. Il en était des personnes en politique qui se sont opposées, vous l'avez dit brièvement, mais quelles ont été leurs limites de cette opposition à...
Il y a eu des critiques et des oppositions effectivement aux analyses de Renan et aux politiques dites musulmanes développées par la France. Critiques très importantes parce qu'elles montrent que tout le monde n'a pas souscrit à ce type de représentation, mais qui globalement n'ont pas réussi à infléchir de façon significative les études, ni au fond les orientations menées par la France au Maghreb français, en Afrique occidentale française et plus tard au Liban et en Syrie. À rappeler tout de même que, et ça permettra aussi de faire le lien avec l'actualité, qu'un ancien gouverneur de l'Afrique occidentale française qui s'appelle Maurice de la Fosse va dénoncer ce qu'il appelle déjà lui une politique islamophobe menée notamment dans cette partie-là de l'Empire français. Ceci pour rappeler que contrairement à une fable forgée...
Ça n'existe pas.
Voilà, exactement. Une fable forgée par Caroline Fourest, auquel il faut ajouter, c'est plus singulier encore, Gilles Kepel, le terme islamophobie n'est pas un néologisme récent. Il n'a pas été forgé par les mollahs iraniens lors de la révolution iranienne de 1979, pas plus que par les frères musulmans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisé par eux. On trouve déjà, chez les orientalistes et les spécialistes des colonies de la fin du 19e, début du 20e siècle, là en l'occurrence Maurice de la Fosse, c'est 1910, le terme islamophobie utilisé effectivement pour condamner les orientations coloniales de la France en terre musulmane. Par ailleurs, rappelez aussi qu'un très grand peintre orientaliste converti à l'islam, Ernest Dinet, utilise lui aussi le terme d'islamophobie pseudo-scientifique, écrit-il, et d'islamophobie cléricale pour dénoncer l'action des pères blancs, des curés, qui ont joué un rôle effectivement significatif dans ce qu'il était convenu d'appeler la civilisation des indigènes.
Alors dans cette, vous venez d'aborder le mot islamophobie qui est essentiel, parce qu'il est aujourd'hui, pour faire le saut dans le présent, vous avez devancé cette question auquel je voulais arriver. On parle dans le passé, on parle d'islamophobie savante. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans... Il y a l'islamophobie savante, mais il y a l'islamophobie médiatique, il y a l'islamophobie courante, moi j'allais dire aujourd'hui.
Alors là aussi, c'est important de comprendre que. Parce que cette islamophobie a été perçue et était pensée par ceux qui la produisaient comme une islamophobie savante, elle s'est évidemment considérablement, si je puis dire, répandue. Précisément parce qu'elle n'était pas pensée comme l'expression d'un préjugé ou de préjugés, mais au contraire comme l'expression de la science. Aujourd'hui, nous sommes moins, ou très peu d'ailleurs, confrontés à une forme d'islamophobie à proprement parler savante, c'est-à-dire forgée dans les universités ou dans un certain nombre de grandes institutions, plutôt confrontés à ce que j'appellerais une islamophobie élitaire. Assumé, défendu par des responsables politiques qui vont de l'extrême droite jusqu'au printemps républicain en passant par des transfuges du Parti Socialiste, par un certain nombre de philosophes, d'essayistes et de journalistes. Et là aussi, je crois que c'est très important de comprendre que cette islamophobie élitaire a d'autant plus de chances de devenir une islamophobie populaire qu'elle est élitaire justement et que elle s'exprime de façon tout à fait légitime, libre, et dans un certain nombre de radios, de télévisions. Pour ne pas parler de la presse, on peut citer toute une série de unes d'un certain nombre d'hebdomadaires qui font leur miel, si j'ose dire, sur des couvertures qui présentent quasiment systématiquement l'islam comme étant une menace pour l'Occident, pour l'Europe et bien sûr pour la France.
Et vous, Olivier Le Courgant-Maison, vous êtes politologue. Votre regard à vous sur cette continuité de cette islamophobie, donc depuis la fin du 19e siècle, à aujourd'hui, quelle ressemblance on retrouve dans les termes, dans la manière de l'exprimer? Il y a une manière scientifique hier, il y a une manière populaire aussi aujourd'hui de parler d'islamophobie.
Alors, dans certains cas, les continuités sont tout à fait faciles à établir en cherchant un petit peu, notamment du côté d'une droite, d'une extrême droite, pardon, radicale, plutôt tendance révolutionnaire, même style troisième voie, où là, il y a effectivement, on voit, je pense entre autres aux éditions du Trident, animées par Jean-Gilles Maniarakis, qui était l'un des fondateurs du groupe d'extrême droite radicale Occident, qui a réédité des textes d'orientalistes du début du XXe siècle, extrêmement islamophobes et évidemment, la conséquence étant extrêmement violent à l'endroit de l'islam et des musulmans. C'est le cas aussi de textes édités par celui qui anime le site Égalité et Réconciliation, Alain Soral. Alors là, il ne s'agit pas d'une réédition, mais de la production d'un texte paru il y a peu. Mais l'auteur de ce texte cite une quantité de spécialistes de l'islam et de la colonisation, dans lequel on trouve toute une série d'appréciations, évidemment, négatives à l'endroit de l'islam et des musulmans. Pour d'autres, dès lors que l'islam est pensé comme un danger pour la République, un danger pour la laïcité, un danger pour les femmes, il est normal qu'ils écrivent ou qu'ils s'expriment oralement, qu'ils retrouvent un certain nombre d'arguments, de rhétoriques, d'images, qui sont parfois très proches, effectivement, des textes et ou des discours islamophobes savants de l'entre-deux-guerres, voire même de la guerre d'Algérie, puisque la guerre d'Algérie va réactiver toute une série de textes et de discours islamophobes, notamment, évidemment, en ce qui concerne le fanatisme et la violence extrême.
Alors, dans votre ouvrage, vous avez un chapitre très important autour de l'islam, de sensualisme, de sexualité. Là aussi, il y avait une certaine violence envers, dans les représentations envers les musulmans, qui étaient violents aussi avec leurs femmes. Enfin, il y avait des choses qui étaient non entendables, dans la mesure où on accusait encore là les musulmans d'un certain nombre de violences faites dans leur sexualité, alors qu'elle était...
Alors là, c'est une, pour moi, une découverte un peu importante, dans la mesure où aujourd'hui...
Il y a eu beaucoup de travaux d'ailleurs qui commencent à naître autour de...
On se fait une représentation de l'islam comme une religion très rigoriste, hostile,
interdit,
à l'homosexualité masculine et féminine, et à l'époque, c'est exactement l'inverse. Encore rappeler qu'il s'agit là de textes de spécialistes et pas du tout de farfelus qui écrivent rapidement sur un coin de table. L'islam est pensé comme une religion effectivement sensualiste comparativement à la religion chrétienne, supposée favoriser en raison de la polygamie l'homosexualité et masculine et féminine, et au fond des sexualités évidemment coupables, ce qui permet de forger la figure d'un musulman et d'une musulmane soumis à une hypersexualité et une hypersexualité parfois violemment coupable lorsqu'elle devient homosexuelle, à quoi s'ajoute, et c'est en partie lié à cela, au-delà de cette dangerosité morale qui est réputée incarnée par le musulman, une dangerosité sanitaire, puisque cette hypersexualité est réputée favoriser la transmission des maladies vénériennes. Et il se trouve qu'un médecin qui consacre un volume très substantiel à cette affaire découvre ce qu'il appelle une syphilis dite arabe. Et cette syphilis arabe est pensée par lui, analysée exactement. Les particularités de cette syphilis arabe, c'est évidemment comparativement à la syphilis, si je puis dire, hexagonale et gauloise, et qu'elle est évidemment infiniment plus grave, puisqu'elle est supposée affecter non pas seulement les adultes, mais également les enfants à naître, et donc être un facteur de dégénérescence des populations et un facteur de diffusion de la syphilis parmi les populations européennes dans les colonies. Et plus tard, lorsque il y aura une émigration nord-africaine très importante en France, alimenter le grand spectre de la civilisation des populations nationales en métropole.
Olivier Lecourt-Grandmaison, vous êtes l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de Ennemi mortel, de la représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. On va vous retrouver dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Poursuivons notre rencontre ce dimanche. Je rappelle que je reçois Olivier Lecourt-Grandmaison et nous parlons de Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. C'est le long titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Un long titre parce que c'est une somme importante de réflexion, d'analyse et d'études auprès de la recherche que vous avez faite, Olivier Lecourt-Grandmaison, sur cette question des représentations de l'islam. Alors on a évoqué au cours de la grande partie de l'émission qui vient de se faire toutes ces interrogations autour de l'islamophobie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que on fasse reculer ce sentiment de peur, de haine, je le répète, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans notre société française, au vu de ce que traverse la communauté musulmane dans son quotidien de vivre son islam en France?
Alors tout d'abord constater, me semble-t-il, ceci, que on assiste, notamment au cours des derniers mois, à une radicalisation des discours islamophobes. On aurait pu penser, peut-être était-ce une forme de naïveté, que notamment les déclarations d'Éric Zemmour à la Convention des droites, les déclarations d'une une rare haine. Violence, auraient contribué à tempérer un certain nombre de discours et finalement, hélas, force est de constater que c'est exactement l'inverse, puisqu'on a vu un certain nombre de ministres, un certain nombre de personnalités, y compris venues du Parti Socialiste et d'autres, reprendre à leur compte des propositions dont il faut rappeler qu'originellement, elles ont d'abord et avant tout été défendues par l'extrême droite, le Front National, puis le Rassemblement National. Je pense en particulier à cette proposition qui aujourd'hui fait une forme de consensus du Rassemblement National jusqu'au printemps républicain, savoir l'interdiction qui serait faite aux femmes voilées de pouvoir accompagner leurs enfants et des enfants lors de sorties scolaires. Donc une involution à mes yeux assez spectaculaire qui au fond ne cesse pas. De ce point de vue-là, je trouve que la manifestation qui a eu lieu au mois de novembre dernier contre l'islamophobie a été un moment significatif, puisqu'on a vu des forces politiques qui jusque-là étaient hostiles à l'usage du terme islamophobie se rallier finalement à cette manifestation et y appeler. Et c'était effectivement un moment important. Le problème, c'est que l'islamophobie à laquelle nous sommes confrontés, qui est encore une fois une islamophobie élitaire et sans doute aussi en partie populaire, elle ne passe pas et qu'il va falloir inscrire cette lutte contre, exactement, voilà. Il va falloir inscrire cette lutte contre l'islamophobie sur la longue durée parce que il va falloir résister longtemps dans un contexte qui jusqu'à présent est très défavorable.
Parce que justement, cette visibilité du voile, comme on le sait, et vous et moi, et les auditeurs et auditrices, c'est une visibilité qui dérange tout le temps, qui favorise cette islamophobie. Et c'en était trop, ce voile qui était interdit aux femmes à accompagner les enfants dans les écoles. Je crois que quand vous rappelez là qu'il y a eu effectivement un certain nombre de gens qui se sont alliés à cette manifestation. C'est pas qu'on les attendait pas, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités d'accepter que ce voile existe aujourd'hui dans la société française, dans sa considération d'une communauté musulmane qui vit en France.
Oui, alors l'accepter, rappeler par ailleurs, parce qu'il y a des études sur le sujet significatives, notamment des études de sociologues, mais pas uniquement, qui montrent que les raisons pour lesquelles les femmes portent le voile peuvent être extrêmement diverses.
Oui, ça va de traditionnel. Hein.
Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui le portent, alors même que leur mère ne le portait pas. Donc il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles elles se comportent ainsi. Et rappeler, alors là c'est sans doute un effet pervers de l'islamophobie, c'est qu'effectivement, à insister systématiquement sur la question du voile, il est clair qu'un certain nombre de femmes jeunes ou moins jeunes vont par réaction porter le voile de façon à dire que c'est une liberté et qu'elles sont parfaitement libres de le porter. Et rappelez qu'effectivement, c'est quand même très important, que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État n'impose pas du tout aux hommes et aux femmes, et en l'occurrence aux femmes, de porter des signes religieux dans l'espace public. Entendu, j'ai bien dit espace public, c'est-à-dire la rue. Il ne s'agit pas là d'institutions publiques. Et que de ce point de vue-là, nous sommes aussi confrontés à une involution de ce point de vue-là également spectaculaire, avec une interprétation qu'on peut qualifier de liberticide et extrêmement sectaire de la loi sur la laïcité, de la loi de 1905.
Et on va rappeler aussi que ces femmes qui conduisent les enfants à une sortie scolaire ne sont pas liées à l'institution publique qui est l'éducation nationale. Elles sont bénévoles et elles sont pas, si on sait aujourd'hui que les fonctionnaires ne peuvent pas porter le voile dans un établissement public, je crois qu'il faut aussi distinguer le statut de qui nous sommes dans l'espace public aussi.
Absolument. C'est très important de rappeler que ces mères qui accompagnent des enfants ne sont pas des fonctionnaires. Elles n'agissent pas dans un cadre qui est celui de l'école. Et il s'agit bien de sorties scolaires. Rappelez que le Conseil d'État a considéré que c'était une liberté fondamentale, et y compris d'ailleurs pour le burkini. Lorsque celui-ci a été interdit par un maire d'une commune du sud de la France, le Conseil d'État a considéré que le fait de porter un burkini sur une plage était parfaitement légal. Non seulement légal, mais que c'était la possibilité d'expression d'une liberté fondamentale. Et l'arrêt du maire en question a été censuré parce qu'il était pensé comme portant atteinte à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d'expression, d'opinion politique et religieuse en l'occurrence, et à la liberté de déplacement.
Alors, comme vous êtes universitaire, intellectuel, politique aussi, Olivier Lecourt-Grandmaison, vous êtes tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait, quand je dis tout à l'heure, comment se débarrasser de cette islamophobie, se débarrasser au sens noble et politique du terme. Je veux dire que mon voisin de palier n'est plus cette peur, cette haine, cette incompréhension du musulman qui vit à sa porte.
D'abord, je pense que...
À la fois dans les mentalités et dans le politique.
Mais je pense que ça va être un combat de longue haleine. D'abord parce que le phénomène de l'islamophobie en France vient de loin, qu'il s'est considérablement répandu et qu'il affecte maintenant, y compris des organisations ou des hommes et des femmes qui se revendiquent de la gauche. Donc je pense que ça va être un combat difficile et long, mais qui doit justement être mené du point de vue des représentations et de la déconstruction de ces discours et de ces écrits islamophobes. Et évidemment, également aussi, mener sur le terrain politique, en réagissant à chaque fois que cela est nécessaire, lorsque des hommes, des femmes, des jeunes vont être agressés parce que musulmans, ou supposés tels, soient agressés verbalement, ce qui est une violence verbale et symbolique significative, soit éventuellement physiquement. Rappelez que ce type de représentation contribue à armer le bras des assassins, et pas seulement à l'étranger. Chacun peut éventuellement se rappeler de ce qui s'est passé, ce terrible attentat perpétré en Nouvelle-Zélande à Christchurch par un suprémaciste blanc qui faisait référence à la thèse du grand remplacement. Mais rappelez que l'attentat de Bayonne a été commis par quelqu'un qui se sentait très proche et qui a été au Front National, et qu'encore une fois, nous avons affaire à des représentations qui contribuent ou peuvent contribuer à armer le bras des assassins, et donc des représentations qui sont effectivement et objectivement très dangereuses.
Et comme contre le racisme, il y a une loi, il faudrait une loi contre l'islamophobie ?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait une loi contre l'islamophobie.
Il ne faudrait pas légiférer.
Rappelez que Éric Zemmour a été condamné pour un certain nombre de propos.
Et il continue de les diffuser.
Qui étaient à la fois racistes et islamophobes. Mais là, il y a des procédures, je crois, qui sont en cours, notamment contre le discours qu'il a tenu lors de la convention des droites, lorsqu'il était invité par Marion Maréchal Le Pen. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que les dispositifs et dispositions juridiques qui existent déjà sont suffisantes pour sanctionner ce type de discours qui sont effectivement et qui peuvent et doivent être qualifiés comme des incitations à la haine raciale.
Et dans la banalisation des pensées, il y a aussi quelque chose à faire. Il y a de l'éducation à dénoncer l'islamophobie aussi peut-être à faire.
Assurément, il faut, je crois, à la fois une des déconstructions et des analyses précises des discours islamophobes élitaires, mais aussi, je pense que l'école aurait un rôle à jouer pour déconstruire, là aussi, là encore, un certain nombre de stéréotypes, de préjugés, de clichés qui sont mobilisés à l'endroit des musulmans, à l'endroit de la religion musulmane, et qui, globalement, à chaque fois, tend à stigmatiser les uns et les autres.
Olivier Lecourt Grandmaison, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est de cela que nous parlons au cours de ce Voix au chapitre aujourd'hui. Le livre se referme, mais votre engagement d'universitaire est attaché à la politique aussi, continue dans ces thématiques-là, dans cette recherche-là sur ce passé colonial qui s'inscrit encore dans la pensée française sociale. Comment est-ce que on a encore des nostalgies de la conquête en France?
Il y a encore des nostalgiques du passé impérial réputé prestigieux. On pourrait même dire, hélas, qu'il y en a de plus en plus au fond.
Il ressurgit
et que ce passé colonial n'est pas un passé passé. Pour le dire en ces termes, c'est un passé présent, en ce sens que c'est un passé qui continue d'affecter notre présent, qui continue d'affecter les héritiers de l'immigration. Effectivement, les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale. Et rappelez que Éric Zemmour, Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner font aussi partie de ceux qui, non seulement tiennent des discours et des propos très violemment islamophobes dans certains cas, mais tiennent aussi des discours qui sont des discours de réhabilitation du passé impérial français. Éric Zemmour ayant, sur CNews, si ma mère ne me trahit pas, encensé le général Bugeaud et la conquête de l'Algérie menée par ce général dans les années 1840, lors même qu'il s'est livré à des massacres terribles qui aujourd'hui seraient qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Enfin, pour finir, vous êtes sur d'autres travaux aujourd'hui ?
Sur un travail qui a à voir avec les violences extrêmes commises dans les colonies, mais dans un autre espace colonial qui n'est pas là l'espace maghrébin français, mais l'espace de l'Afrique équatoriale française.
Le plaisir de vous retrouver pour en parler à nouveau. Merci Olivier Lecourt Grandmaison. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci infiniment d'être venu ce dimanche à Beurre FM. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Voix au chapitre sur Beurre FM.